Nous allons faire ensemble deux lectures. La première, dans Genèse au chapitre 13. Genèse au chapitre 13, nous relisons les versets 5 à 13 et y ajoutons les versets 14 à 18. Donc Genèse 13, 5 à 18. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs, des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, nous lisons les versets 26 à 36. Luc 17, versets 26 à 36. Parole du Seigneur Jésus lui-même. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint, les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. La foi, l'espérance et l'amour. Tel pourrait être le titre de notre réflexion de cet après-midi. Trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, conclura l'apôtre Paul de la part de Dieu, c'est l'amour. Nous évoquons le climat de la foi dans cette deuxième mise à l'épreuve de la foi du néophyte Abraham. Le climat de la foi. Comment vivre sa foi dans les relations avec autrui. Nous avons commencé ce matin à analyser les trois facteurs du problème qui constituent cette mise à l'épreuve seconde de la foi d'Abraham. Le premier problème, avons-nous dit, ce sont les biens. Les richesses. Dieu veut, par la famine, enseigner Abraham à vivre dans la disette en expérimentant son secours, mais il veut aussi lui apprendre à vivre dans l'abondance. Et nous avons vu combien les questions de finances, d'immobilier, de sicave, d'assurance vie, n'étaient pas étrangères à la préoccupation des Écritures et du Seigneur des Écritures. Il n'y a pas dans ce domaine de sujet honteux dans la parole de Dieu. Nous soulignons cet après-midi tout d'abord, bien entendu, comme nous l'avons fait ce matin, que le conflit au niveau des biens, des richesses, est dû partiellement au voyage, à l'escapade regrettable d'Abraham et des siens en Égypte. Et il est vrai que la richesse, la possession des biens matériels a des tentacules pour immobiliser le cœur du croyant, pour l'accaparer, pour le préoccuper. Quel souci maintenant que de gérer cette situation en terre de Canaan. Il est vrai qu'il est plus difficile de vivre en riche qu'en pauvre. Même si la pauvreté est difficile à gérer, le livre des Proverbes, notamment le livre de l'Ecclésiaste, encore plus souligne la difficulté de vivre en riche. Ces problèmes de la cupidité que nous évoquions ce matin, je pense à ce jeune homme qui trouva un jour un billet de 10 francs sur un trottoir. Depuis ce jour-là, il n'a jamais plus levé les yeux en marche. Toujours rivé au sol. Pour y faire quelques nouvelles trouvailles, il accumula au cours de ces années 29 516 boutons, plus de 54 000, exactement 54 172 épingles, et d'innombrables petites pièces d'argent, plus un dos courbé, une tendance innée à l'accaparement. Il perdit de vue la gloire du soleil levant, le scintillement des étoiles, le sourire des amis rencontrés en chemin, la splendeur de la floraison printanière, l'azur du ciel et toute la joie de vivre. C'est un journaliste qui le rend. problème de l'aurore de la richesse dans notre vie. Vous grattez où il faut gratter et vous gagnez. Quelle poisse, ensuite, pour se défaire de certaines tendances. Heureux, dira Jésus, heureux ceux, littéralement, qui ont un cœur de pauvre. Le royaume des cieux est un heureux ceux qui ont un cœur de pauvre. Et le terme utilisé dans le texte grec du Nouveau Testament laisse entendre que ce pauvre, c'est une personne qui est consciente de sa misère. Plus particulièrement même, le mendiant. Heureux les pauvres en esprit, ces mendiants démunis de toute ressource, qui tendent les mains vers le ciel et qui savent que seule une étroite relation avec Dieu peut subvenir à leurs besoins. Et c'est vrai que, en général, la pauvreté dispose l'âme à des sentiments humbles et doux qui rendent apte à recevoir la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas une généralité absolue. Mais nous devons constater que dans les pays de ce monde, qu'on appelle du tiers ou du quart monde, et encore d'autres expressions actuellement à la mode, il y a un désir de Dieu, une soif de relation avec Dieu, généralement de loin, beaucoup plus grand que dans nos pays bien nantis, même à l'heure de la crise. La prospérité, la richesse dispose généralement le cœur à des sentiments durs, à des sentiments orgueilleux de propre suffisance. D'ailleurs, dans une des grandes définitions que j'appellerais doctrinales du monde, parce que nous parlons beaucoup du monde, mais il est rare que nous soyons capables de définir ce qu'est le monde. D'autant plus que Jésus a dit d'un côté que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et que d'un autre côté, le même Dieu nous dit n'aimez pas le monde. Dieu a tant aimé le monde, n'aimez pas le monde. D'où une certaine confusion dans nos esprits. Tout simplement parce que le terme monde dans les Écritures a un minimum de 4 significations différentes et parfois même 5. Et il faut bien entendu que dans notre lecture des Écritures, nous tenions compte simplement du contexte pour comprendre quelle est celle des significations qui convient exactement au passage que nous sommes en train de lire. Et quand il nous est dit « n'aimez pas le monde », il est question d'un système, d'une mentalité, d'une manière de penser, d'un certain schéma du cosmos, littéralement, puisque c'est là le terme grec, de l'ordre. N'aimez pas l'ordre, tiens, c'est curieux. Alors que Dieu est un Dieu de bienséance et d'ordre. Mais l'apôtre Jean voulait dire n'aimez pas l'ordre tel qu'il est conçu et appliqué par la puissance des ténèbres. Parce que la puissance des ténèbres a son ordre, à son système de pensée, qui est une caricature de l'ordre et du système de pensée de Dieu. Et ce système de pensée, de la puissance des ténèbres, du prince de cet ordre, du prince de ce monde, a 3 volets, 3 dimensions. Convoitise des yeux, désir coupable qui passe par la fenêtre du regard, convoitise ou désir coupable de la chair, l'hippopotame moi, dans tous ses aspects, désir de régner, d'être le premier, de dominer, d'écraser, de piétiner l'autre, esprit de parti, de revendication, de vengeance. Toute recherche de puissance par le biais de l'occultisme, etc., etc. Et puis un troisième volet, c'est celui qui nous intéresse. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et ici, le mot « vie », dans 1 Jean 2, 16, 17, le mot « vie » n'est pas le même mot que dans l'expression « vie éternelle ». La vie éternelle, c'est la zoé, bien zoologie. Mais ici, dans l'orgueil de la vie, c'est un autre terme qui a donné « biologie », la « bios ». La « bios », essentiellement dans les Écritures, les moyens d'existence. Les biens, comme dit la loi, meubles et immeubles. Le statut social, la position dans la société, la possession du carnet de chèques et de la provision qui va avec, le nombre de chevaux moteurs dans la carcasse de notre voiture. L'orgueil de la vie, orgueil, un mot pratiquement unique dans le Nouveau Testament. Il y a souvent question d'orgueil, mais ce terme n'est utilisé que deux fois là, dans le Nouveau Testament. C'est un terme qui signifie littéralement l'insolence, la fanfaronnade, qui est provoquée dans le cœur de l'homme par la possession des biens. Quand je possède des biens, je deviens insolent. C'est-à-dire que je pense que le fric me donne tous les droits. C'est un passe-droit. Avec cela, j'ai l'illusion du pouvoir. Je peux ouvrir toutes les portes. Je peux écraser n'importe quoi et n'importe qui. Dieu dira que l'orgueil de la vie fait partie de ce système qui appartient à la puissance des ténèbres. Et l'orgueil de la vie n'existe pas seulement dans le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. C'est quelque chose qui poursuit le véritable disciple de Jésus-Christ. Si vite, dans notre société de consommation, nous sommes tentés par l'orgueil de la vie. Si vite, nous oublions de dépendre de Dieu pour chacun de nos besoins. Bien entendu, disons-le par souci d'équilibre, il y a des riches au cœur de pauvres et des pauvres au cœur de riches. Il y a des pauvres qui ont une attitude de riches et des riches qui ont une attitude de pauvres. Au point que quelqu'un a d'ailleurs écrit, ce n'est pas la possession, mais la cupidité des biens de la terre que Paul condamne. L'un peut être pauvre d'esprit au milieu des richesses, l'autre peut être riche par cupidité dans l'indigence. Le premier se sanctifie en les possédant, le second peut se damner en les désirant. Dieu veut en tout cas que quel que soit notre niveau de vie, nous ayons un cœur de pauvre. C'est-à-dire continuellement réalisant notre besoin incontournable de la présence de Dieu pour suffire précisément à tous nos besoins, quels qu'ils soient. Simplement encore une autre remarque au passage avant d'aller plus loin et qui nous encourage à savoir que dans notre texte de Genèse 13, Dieu veut se servir des circonstances qui sont la conséquence de la défaillance d'Abraham en Égypte pour faire mûrir sa foi. C'est-à-dire que lorsque le péché est confessé, nous en avons parlé ce matin, et même s'il y a des conséquences, et même si ces conséquences vont parfois être très douloureuses, nous avons parlé du drame d'Agar l'Égyptienne 10 ans plus tard, cela n'empêche que Dieu, dans son amour, Dieu dans sa générosité, veut utiliser ce mal, une fois qu'il a été confessé, reconnu comme mal et déposé au pied de la croix, Dieu veut utiliser ce mal pour en tirer du bien.
Et alors que Abraham réalisait qu'il y avait là un problème dans cet encombrement, dans cette lourdeur, dans ce poids des richesses, en même temps, il pouvait dire, Seigneur, je te bénis parce que tu peux aussi maintenant m'apprendre quelque chose au moyen même de cette situation qui est la conséquence de mon incrédulité. Alors, si quelqu'un à l'issue de notre réflexion de ce matin avait été tenté par la désespérance, en disant, oui, mais si je dois traîner pendant toute ma vie des conséquences semblables à celles d'Abraham et me retrouver avec une Agar, là, dans 10 ans, mais c'est quand même dramatique, rappelez-vous de la beauté de Dieu dans ce domaine. À savoir qu'il y a, d'une part, c'est vrai, des conséquences à gérer, mais d'autre part, que nous ne les gérons pas seuls. Et qu'il va, lui, notre Dieu, utiliser ces conséquences lorsque nous sommes venus au pied de la croix, je le redis. Il va les utiliser comme un tremplin pour nous aider dans notre propre croissance. Ça, c'est l'alchimie de l'amour de Dieu. C'est la parole de Joseph à ses frères. Vous aviez médité de me faire du mal. Eh bien, mes frères, sachez une chose. C'est que Dieu a changé ce mal en bien pour sauver un peuple nombreux. Ça, c'était donc le premier facteur du problème, les biens. Le deuxième facteur du problème, c'est Lot. C'est Lot. Ce sont les bergers, tout d'abord, mais derrière les bergers, il y a le patron. Et c'est lui le personnage important, c'est lui qui va déterminer quelle doit être la conduite de ses employés. Et là, nous touchons à toutes nos difficultés avec nos plus proches. Avec notre frère en Christ, ou notre sœur en Christ. Avec notre famille. Parce que nous ne vivons pas notre foi tout seul. Alors comment faire pour éviter la dispute? Ou encore, pour être plus réaliste et plus biblique, comment faire pour gérer les conflits inévitables? Parce que s'il est des croyants qui pensent qu'un disciple de Christ ne devrait jamais connaître de conflits, il n'en est pas de même de la pensée de Dieu. Dieu nous parle dans sa parole de conflits inévitables. Le problème n'est pas dans le conflit. Le problème est dans la manière de gérer les conflits. Il y a des croyants qui sont tellement déterminés à éviter à tout prix tous les conflits qu'ils ne savent jamais dire non courageusement. Ils pensent que leur vertu, c'est de louvoyer en permanence et surtout d'éviter la dispute. La dispute, ça leur donne de l'urticaire, n'est-ce pas? Dès qu'il y a une tension à quelque part, vous les voyez s'enfoncer dans un trou. C'est se condamner à rester un petit enfant sur le plan spirituel. Dieu veut que nous acceptions des conflits qui sont inévitables et qui sont même une nécessité pour notre croissance. Mais ce que Dieu veut, c'est que, réalisant qu'ils font partie du programme de la vie chrétienne, ces conflits, nous les gérions de la bonne manière. Et encore plus lorsque, dans ces conflits, il est question de dimension matérielle. Parce qu'ici, bien entendu, il est question de dimension matérielle. De troupeau, de terrain, de rentabilité, de bénéfice, et que sais-je encore, dirions-nous aujourd'hui. Et c'est là, souvent, que ça coince dans notre témoignage. Je pense à cette vieille église dans le beffroi de laquelle il y avait une cloche. Et lorsque des visiteurs essayèrent de faire sonner cette cloche, il ne se produisit rien. Alors ils examinèrent la cloche de près, et ils finirent par découvrir quelque chose de très inhabituel. Le fond de la cloche avait été bouché avec des panneaux de bois. Mieux encore, on avait pratiqué une porte dans le côté de la cloche et on s'était servi d'un cadenas pour la tenir fermée. Et lorsqu'ils demandèrent pourquoi on avait fait cela, ils découvrirent que l'église utilisait la cloche comme coffre-fort pour garder de l'argent. C'était une fort brillante idée, mais ce n'était pas pour cela que la cloche avait été conçue. Et combien d'églises ont viré? Combien de croyants ont commencé à rendre un mauvais témoignage lorsqu'ils n'ont pas su gérer des conflits relationnels et des conflits matériels à la gloire de Dieu? La cloche de leur témoignage a été utilisée pour autre chose et leur témoignage au dehors a été annulé par leurs problèmes. Troisième élément du problème, les voisins. Les voisins. On a parlé de Lot, ça c'est la famille, mais il y a les voisins. Chapitre 12, verset 6, c'est curieux cette remarque. Au verset chapitre 12, les Pérésiens habitaient alors dans le pays. Des voisins. Ceux qui sont en dehors de la famille spirituelle. De notre attitude dans les conflits dépendent leur réaction face à l'évangile. Ils nous observent pour essayer de nous prendre en faute, pour essayer de trouver des excuses pour ne pas se donner à Jésus-Christ. Et cette querelle pouvait être quelque chose de très fâcheux pour le témoignage de notre ami Abraham et de son neveu. Alors, quelle va être la solution divine? Je suis persuadé que nous pouvons les uns et les autres, à partir de ce problème, nous identifier. Et peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous est exactement dans ce type de situation en ce moment. Un certain nombre d'éléments du problème que nous retrouvons ici dans Genèse 13, c'est sa situation. Ou peut-être que cela vous rappelle une situation du passé. Et que nous allons pouvoir voir ensemble maintenant si notre attitude a été juste dans ce test, dans cette mise à l'épreuve de la foi en matière de relation. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Vous voyez qu'il y a des moments où la gauche et la droite s'équilibrent. C'est la même chose. Première remarque. Le refus du procès. Je fais ici allusion à 1 Corinthiens, chapitre 6, dans les versets, dans les premiers versets, on va lire à partir du verset premier, l'un d'entre vous, 1 Corinthiens 6, 1, lorsqu'il a un différend avec un autre, ça c'est Abraham et Lot, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Ah, cette petite expression est intéressante. Vous vous souvenez de l'orgueil de la vie, bios. Ici, c'est littéralement biotica. Vous voyez, vous avez le même bios qui est dedans. Les choses de cette vie, c'est-à-dire les choses nécessaires à la subsistance. L'argent, les biens. C'est-à-dire qu'il y avait donc dans l'église de Corinthe des procès qui étaient liés précisément à la gestion des biens, à des questions de fric. Si donc vous avez des différends pour les choses nécessaires à la subsistance, l'argent, les biens, l'immobilier, Comment, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Prononcer un jugement, il faut comprendre. Non pas, en quelque sorte, faire le juge. Le terme laisse entendre quelqu'un qui puisse arbitrer, qui puisse prononcer le mot de la sagesse de Dieu et trancher en disant, écoutez mes amis, la Bible dit que c'est comme ça, un point, c'est tout. Non pas faire le travail d'un juge, non pas faire une sorte de procès. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi donc ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Quel message? Pas de procès. Et je le dis avec d'autant plus d'émotion, il m'est arrivé combien de fois de vous dire déjà que dans mes fonctions au sein de notre Fédération évangélique de France, durant ces 6 dernières années, j'ai dû avec d'autres porter l'un des dossiers les plus douloureux que l'on puisse porter dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Essayer de régler des problèmes lorsque parfois même des serviteurs de Dieu traînent des croyants devant la justice. J'ai participé il y a quelques années à une séance de tribunal odieuse. Odieuse. Je le vois encore, ce soi-disant homme de Dieu, pasteur d'une église, qui conseillait même l'avocat à côté de lui, alors qu'à 2 mètres derrière lui, à côté de nous, il y avait les 4 ou 5 anciens de son église qu'il traînait devant monsieur le juge, alors qu'il était coupable de ce genre. Et je l'entends encore, ce président du tribunal, à un moment donné, d'élever la voix et de dire « Mais je ne comprends pas comment d'authentiques croyants, des chrétiens, peuvent se traîner devant les tribunaux. » Lui, l'homme païen, c'était le pharaon dans cette histoire. Demandez à mon épouse les nuits blanches passées, à cause du drame d'une telle situation, de la casse que cela a engendré, des courriers que nous avons reçus, des croyants qui ont fait de la dépression, d'un foyer qui a été brisé, et de tant d'autres choses. Mes amis, la Bible est pourtant claire. À l'heure où le procès est chose si facile, à l'heure où pour un oui ou pour un non, on vous traîne devant les tribunaux, mes amis, ne soyez jamais, en tant qu'enfant de Dieu, tentés par ce genre d'approche des problèmes. La parole de Dieu est suffisamment claire. Mais ceci dit, soyons positifs. Tout d'abord, constatons une chose, c'est que Abraham prend l'initiative. Voilà un homme qui ne reste pas mordicus sur ses positions. Vous avez des croyants qui, dans certains conflits, tapent du pied comme un petit enfant de 3 ans et disent « Non !» Il ne le fait pas. Abraham ne supporte pas cette situation. Il ne contourne pas la difficulté. Il aborde le problème de front. Et mes amis, faut-il le dire, beaucoup d'églises sont bloquées parce qu'au lieu d'aborder certains problèmes de fond, on a louvoyé, on a tergiversé, on a contourné, on a finalement enterré, en oubliant que les cadavres qu'on enterre, c'est comme les gens qui se noient, tôt ou tard, le cadavre remonte à la surface. Abraham a eu une attitude très juste. Et il s'est évité bien des complications. Il a d'ailleurs aussi une attitude courtoise. Il ne réagit pas impulsivement. On a le sentiment qu'Abraham a pris manifestement du recul avant de s'adresser à son neveu. Il n'y a pas d'agressivité dans son attitude. Et là encore, nous devons nous méfier de nos tendances à la riposte rapide dans les conflits. Il importe de savoir prendre du recul. Ensuite, il n'y a pas chez Abraham ce que j'appelle la tentation du corporatisme, c'est-à-dire cette tentation de prendre aveuglément position pour son clan. Il y a d'un côté le clan de Lot, il y a de l'autre le clan d'Abraham. Et Abraham peut être tenté de prendre position pour son propre parti. Et là aussi, si souvent dans l'Église, lorsque naît et se développe un problème, à cause de certaines manœuvres, on crée un esprit de parti. Et très rapidement, vous avez ceux qui sont pour un tel et ceux qui sont pour un tel. Et c'est comme cela que les Églises aussi se divisent. Abraham se refuse au corporatisme. Puis bien entendu, il n'attend pas que les problèmes aient pris des proportions dramatiques. Mieux vaut s'en prendre aux premières flammes lorsque naît l'incendie que de devoir intervenir lorsque l'incendie est au plus fort. Ajoutons que Abraham n'attend pas que Lot fasse le premier pas. Mais nous y reviendrons. Il n'attend pas que Lot fasse le premier pas. Et bien des problèmes seraient supprimés ou vite résolus si nous suivions à la page ces sages préceptes bibliques que le jeune Abraham, au niveau de la foi, a su appliquer à cette situation. La Bible et Dieu nous exhortent à rechercher la paix. À rechercher la paix et à la poursuivre de tout notre cœur. Si quelqu'un veut prolonger sa vie, qu'il veut voir des jours heureux, s'il veut être en bonne santé, qu'il recherche la paix, dira l'apôtre Pierre dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 11. Qu'il recherche la paix, même qu'il la poursuive. Et le terme, dans le texte original, est le terme qui est traduit ailleurs par persécuté. Quand Saul de Tarse persécutait les disciples de Jésus-Christ, c'est le même terme qui est utilisé pour bien montrer la hargne, l'engagement, le totalitarisme de cette recherche de la paix. Mais poursuis-la, comme on a pu persécuter les chrétiens, comme on a pu aller les chercher lors des dragonnades pour les enfermer dans la tour de Constance, disions-nous hier soir. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Pas la paix sans la sanctification. C'est intéressant, nous allons y revenir. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Cela veut dire qu'il y a une paix qui n'est pas à rechercher. C'est celle qui serait en divorce de la sanctification. Parce qu'il y a une paix qui déterre la sanctification. C'est la paix à n'importe quel prix. Mais nous allons y revenir. Et ici, il nous est dit littéralement, poursuivez aussi la paix. C'est le même terme qui est utilisé, Hébreux 12, 14. Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Voyez le réalisme des Écritures. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Vous ne pouvez pas obliger tous les hommes à être en paix avec vous. Mais en tout cas, vous pouvez faire votre bon chemin pour qu'il en soit ainsi. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus. Si quelqu'un veut vous conserver sa plus terrible haine, Vous ne pourrez m'en empêcher. Mais ce qui importe, c'est que de votre côté, la chose soit vraiment réglée devant le Seigneur. Qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas tout le pu à l'intérieur de blessures enflammées, donc purulentes. Voilà ce que Dieu demande. Colossiens chapitre 3, verset 15, que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Mieux encore, selon le texte original, on peut traduire par règne, mais il y a une petite nuance dans l'original, que la paix du Christ siège en arbitre dans vos cœurs. C'est-à-dire que la paix dans notre cœur, la paix de Dieu, la paix communiquée par le Saint-Esprit, qui développe cet élément du fruit, donc de l'Esprit en nous, la paix est un arbitre. Et tout ce qui interrompt ou tout ce qui encourage la discorde dans ma vie doit être sifflé. Quand la paix de Dieu cesse, quand retentit le petit signal, quand le voyant se met au rouge, commence à clignoter sur le tableau de bord de ma vie, alors, puisque l'arbitre vient d'intervenir, la partie doit être arrêtée et il faut réparer. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ou encore Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par et pour ceux qui recherchent la paix. Nous avons donc choisi un échantillonnage de phrases très fortes sur la paix pour montrer que ce n'est pas un simple slogan facile, non. Il y a vraiment un message fort, vigoureux, qui nous interpelle, qui nous saisit à quelque part. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et nous devons donc mettre tout notre cœur à cette tâche. Dans un vieux monastère en Allemagne, on peut voir les bois de deux chevreuils imbriqués l'un dans l'autre de façon permanente. On les a trouvés ainsi il y a plusieurs années. Et il semble donc que les animaux s'étaient férocement battus, que leur bois s'était si bien entremêlé qu'ils n'avaient pu se séparer et par conséquent les deux chevreuils moururent de faim. Et quelqu'un fit le commentaire suivant: j'aimerais présenter ces bois dans chaque foyer, dans chaque école, pour avertir les gens de ne pas se battre jusque dans leur dernier retranchement pour montrer qu'ils ont raison. Je les apporterai aussi dans chaque église, de manière à ce que leur silencieux message s'incruste profondément dans le cœur de tous ceux qui semblent se plaire à donner des coups de corne aux autres chrétiens à la moindre provocation. Avons-nous la réputation d'être des vrais faiseurs de paix? Ou avons-nous celle d'être des querelleurs qui se plaisent à créer la dispute? Bien entendu, je le disais tout à l'heure, nous devons rechercher la paix et la sanctification. Donc la paix, pas à n'importe quel prix. D'ailleurs, c'est très intéressant dans les Écritures. Nous avons un joli prénom français. Le mot Irène, le prénom Irène, qui veut dire donc paix en grec. L'Irénée. Mais l'Irénée, chez les Grecs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être ce qu'on appelle un état de non-belligérance. Ça peut être ce qu'on appelle la guerre froide. Le fait de ne simplement pas se tirer dessus. La paix et l'Irénée, c'est la cessation des hostilités. C'est un mot qui aurait une tendance assez négative, en fait. Ça, c'est la paix à la grecque. selon la philosophie humaine. Et le peuple grec était le peuple de la philologie. Par contre, les Hébreux se saluaient d'un autre mot, shalom. Et shalom, c'est autre chose. Shalom va beaucoup plus loin. Shalom contient l'idée de plénitude, de prospérité, de réussite sur tous les plans. Shalom dérive d'une racine qui signifie être accompli, être achevé. Et dans les Écritures, être shalom, connaître le shalom, c'est en même temps connaître une paix qui est toujours associée à la justice, à l'intégrité, à la droiture. Nous avons par exemple dans Ésaïe 32, verset 17, ce verset, l'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. Et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres et tranquilles. Voyez, vous avez là la définition biblique de la paix. La paix, c'est quoi? C'est tout d'abord le fruit de la justice. Et deuxièmement, ce fruit de la justice se traduit dans un programme de paix qui contient le repos, la sécurité, la sûreté, la tranquillité. C'est donc un mot d'une extrême richesse. Il n'y a pas de véritable paix, nous dit Dieu, sans justice, sans intégrité, donc sans purification de notre cœur, sans lavage de notre conscience. D'ailleurs, André Chouraki, ce spécialiste des langues, et des langues bibliques en particulier, dira dans son commentaire sur la Genèse, ces mots, le même mot, shalom, veut dire à la fois paix, prospérité, santé, union. Santé, union. Donc si nous devons mettre notre cœur, et tout notre cœur, à être des faiseurs de paix, il n'est pas question que nous essayions de faire la paix à n'importe quel prix. Un grand commentateur a souligné ceci, les mots paix et apaisement ne sont pas synonymes. La paix de Dieu n'est pas la paix à n'importe quel prix, car Dieu a fait la paix à un prix élevé, celui du sang de son Fils unique qui donne la vie. Et à notre niveau, faire la paix n'est pas chose facile. Il faut dénoncer la paix à bon marché. Affirmer que la paix est établie lorsque ce n'est pas le cas, c'est faire œuvre de faux prophètes. Et nous connaissons tous des situations où la paix n'a pu être reconquise qu'au prix de la souffrance. Et lorsque nous sommes nous-mêmes impliqués dans un conflit, présenter des excuses à la personne que nous avons blessée ou reprendre celle qui nous a fait du tort n'est jamais facile. Il y a même des situations dans lesquelles il faut refuser le pardon à une personne jusqu'à ce qu'elle se repente. Et là, John Stott, l'auteur de ce texte, bien sûr, vise les relations dans l'Église. Parce que si vis-à-vis du monde, chez lequel le Saint-Esprit ne domine pas dans les cœurs, nous devons avoir un pardon sans aucune condition, d'une immense générosité, il n'en est pas de même dans nos relations les uns avec les autres dans l'Église. La vraie paix et le vrai pardon sont des trésors qui comptent. C'est seulement lorsque nous nous repentons que Dieu pardonne. Jésus nous a dit de faire de même. Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Comment pouvons-nous pardonner une offense à celui qui l'a commise, ou si celui qui l'a commise n'en vient ni à la reconnaître, ni à la regretter? Cela ne veut pas dire que nous devions avoir une dent pour la moindre peccadille vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et leur courir après pour leur dire « tu dois demander pardon ». Mais il y a des domaines dans la vie de l'Église et dans nos relations avec les uns avec les autres qui sont suffisamment graves pour que nous soyons obligés de regarder quelqu'un droit dans les yeux, avec tout l'amour de Dieu dans notre cœur, en lui disant, tu sais, frère, dans mon cœur, je n'ai qu'une seule envie, c'est de te pardonner. Mais à quoi sert-il que je te pardonne si mon pardon ne peut pas être enregistré dans le ciel? Si Dieu ne peut pas me dire, Maurice, je suis d'accord avec toi? Parce que ce que Dieu veut, c'est que ce que je lis sur la terre soit lié dans les cieux, et ce que je délis sur la terre soit délié dans les cieux. Il faut qu'il y ait accord entre le ciel et la terre. Et je peux te dire que dans ta situation, tant qu'il n'y a pas chez toi de véritable repentance, le pardon que je pourrais t'offrir ne serait qu'un piège qui risque de t'enfoncer davantage dans ton péché. Alors même avec le plus grand désir de pardon, je dis non. Je t'aime. Mais il y a une démarche qu'il faut que tu fasses si tu veux être véritablement délié, libéré et à nouveau conquis par le Seigneur. C'est un grand thème, nous ne pouvons pas le développer à fond maintenant, mais il est d'importance. Alors, qui doit donc prendre l'initiative quand un conflit éclate? Eh bien, la lecture attentive des Écritures nous indique que c'est toujours moi. J'entends par Maurice Descartes, toujours moi, c'est-à-dire chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Chaque fois qu'un conflit éclate, je dois prendre l'initiative. Matthieu 5, verset 23-24, si ton frère a quelque chose contre toi, va, laisse ton offrande à l'autel. Si vous prenez Matthieu 18, 15, si mon frère a péché, je vais vérifier. Et enfin, Marc 11, 25, si j'ai quelque chose contre mon frère, alors que je suis en train de prier, mieux vaut d'abord le régler. Dans tous les textes, c'est lorsque je suis conscient qu'il y a problème que l'initiative me revient. Le premier qui constate quelque chose d'anormal prend l'initiative. C'est un principe biblique. Or, souvent, c'est là que nous avons des problèmes. Parce que nous ne faisons pas dans ces situations ce que Abraham a fait. Parce qu'Abraham, non seulement a pris l'initiative, mais prenant l'initiative, il a renoncé à ses droits. Vous avez renoncé à vos droits. Moi, je n'aime pas. Par nature, je n'aime pas renoncer à mes droits. Regardez un peu Abraham. Il a renoncé à son âge. Abraham est le plus âgé. Il est l'oncle. Il a en face de lui une neveu. Vous connaissez l'orgueil de l'âge? Quand j'étais enfant, on me disait à la maison, quand tu auras 14 ans, parce que 14 ans c'était un tournant dans un certain passé. Certificat d'études, etc. Enfin, il y avait un tas de choses. Quand j'ai eu 14 ans, on m'a dit, quand tu feras ton service militaire? Quand j'ai fait mon service militaire, on m'a dit, quand tu seras marié? Quand j'ai été marié et que j'ai me pressé la tête, on m'a dit, quand tu auras des enfants? Maintenant que nous avons des enfants, on me dit, quand tu seras grand-papa? Et quand j'aurai 80 ans, je trouverai bien quelqu'un qui en aura 90 et qui dira, mais tu es encore un pauvre petit. Vous connaissez le problème de l'âge? On n'a rien, mais on a au moins ça. Hein? Et ça, ça nous joue des tours dans nos relations les uns avec les autres. Oh, moi, je suis à 50 ans, le petit blanc bec là de 13 ans. Et moi, je devrais prendre l'initiative d'aller le voir. Mais quand même. Et son éducation, hein? Eh non! Abraham était le plus âgé. Il a pris l'initiative. Non seulement il était le plus âgé, mais il avait un rang familial particulier, il était chef de clan. Vous savez, c'est pas rien d'être chef de clan. Nos amis africains savent, dans la coutume africaine, ce que cela peut signifier que d'être chef. Et puis, Abraham pouvait fusiller l'autre du regard en lui disant, mais dis, tu sais, toi, petit blanc-bec, hein, Qui est-ce qui a emmené l'autre avec lui? C'est toi qui m'as emmené avec toi, ou bien est-ce que c'est moi qui t'ai emmené avec toi? Et puis il est le plus riche. Manifestement, il est le plus riche des deux. Il a plus de temps derrière lui, etc., etc., n'est-ce pas? Or, le plus riche, vous savez, dans un conflit, en général, c'est celui qui a le plus à perdre. Plus on a de richesses dans quelque domaine que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine des capacités, dans tous les domaines, on a toujours plus à perdre. Au départ, dans sa pensée, dans sa mentalité, si l'on prend l'initiative. Et puis, Abraham est le possesseur de la promesse d'héritage du pays. C'est pas à l'autre que Dieu a dit, tu vois tout ça, c'est à toi. C'est à lui, Abraham. Alors là, ses droits sont définis par Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on est là vraiment au niveau spirituel. Et nous avons, ou nous croyons avoir des droits dans le domaine spirituel. Moi je crois, pardon de le dire, et j'ai tort. Mais quand ça ne marche pas avec le Seigneur, je pense qu'en tant que serviteur de Dieu, appelé à son service, j'ai des droits que d'autres n'ont pas. Je peux avoir des droits de secrétaire général, que Dieu s'en moque éperdument. Chacun d'entre nous est comme ça accroché à ses titres, à ses propres droits, à ses médailles, à ce qu'il a gagné, y compris dans le domaine spirituel, n'est-ce pas? Je veux dire, comment est-ce que tu voudrais que je commence à accepter que ce petit blanc-bec, là, me dispute le pays? C'est toi qui me l'as donné, Seigneur. D'où les chamailleries dans l'exercice des dons spirituels, dans les responsabilités à l'intérieur de l'église locale, parce qu'un a telle position que l'autre n'a pas, au nom de nos droits. Mais Seigneur, tu m'as fait tel don, tu ne lui as pas fait à lui, qu'est-ce qui vient m'embêter maintenant? Voyez-vous, c'est un des aspects les plus difficiles pour la vieille nature que le renoncement à nos droits. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est saturé de revendications et de défense des droits. J'ai refusé, il y a quelque temps dans une librairie, de signer une pétition internationale.
Point là. Hein? Et regardez, je vais très vite maintenant. Lot habita dans les villes de la plaine, dressa ses tentes jusqu'à Sodome, en direction de Sodome. Qu'est-ce qui se passe chez Lot maintenant? Eh bien, Lot va commencer à dériver parce qu'il se désancre d'Abraham, qui était vraiment l'homme de foi. Il commence à dériver. Alors, il pousse ses troupeaux avec leurs bergers toujours plus près de Sodome. On plante la tente toujours plus près de Sodome, et puis nous retrouvons un peu plus loin, au chapitre 14, verset. Mais ils s'en allèrent un jour. Lot a décidé qu'on en avait assez de vivre dans la caravane. On allait vendre le mobile home et on allait se payer une belle petite maison. Un de ces F5 ou F6, hein, mais alors, c'est comme ça. On a cessé d'être disponible. On a cessé d'être obéissant. Et puis alors, plus loin, au chapitre 19, verset 1er, les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. C'était donc insuffisant d'habiter à Sodome. Fallait faire mieux. Il a fallu renouveler le conseil municipal de Sodome. Nommer un nouveau monsieur le maire. Ben, que croyez-vous que fit Lot? Il s'inscrivit pour faire partie du conseil municipal. Parce que c'est ce que le texte sous-entend quand il est assis à la porte de Sodome. C'est là où le conseil municipal se tenait, où on traitait des questions de justice, etc. C'est-à-dire qu'il était, semble-t-il, devenu une huile dans la cité de Sodome. Quel est le résultat? Les anges arrivent, ils courent au devant d'eux. Il se prosterne la face contre terre, puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, vous poursuivrez votre route. » Bien sûr, ça fait quand même tilt dans son cœur. Parce que la deuxième épître de Pierre nous présente Lot comme un juste. Il est justifié. Il est déclaré juste. Il a mis sa foi en l'Éternel. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas allé beaucoup plus loin. Alors, quand il voit ces personnages, il y a quelque chose qui fait tilt en lui. Mais vous avez remarqué comment ils lui répondent ? Non. Nous passerons la nuit dans la rue. Dans le chapitre précédent, dans le chapitre 18, quand les trois personnages célestes viennent à la rencontre d'Abraham qui est en train de faire la sieste, n'est-ce pas ? Il leur dit, verset 3, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur, permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, etc. etc. » Et ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » C'est curieux, hein ? Quand les anges arrivent à la porte de la tente d'Abraham et qu'il les dit « Mais venez !» ils répondent tout de suite « Oui, d'accord, on est heureux chez toi. » Quand Lot invite les mêmes personnages à entrer chez lui, il dit « Non !» Et il a fallu qu'il insiste, Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Mes amis, soit que vous soyez Abraham, soit que vous soyez Lot, les anges se plairont plus ou moins en votre compagnie. Je n'hésite pas à le dire. C'est vrai que le Seigneur se plaît en particulier en compagnie de ceux qui lui donnent vraiment la première place. Et on comprend pourquoi les anges avaient cette réticence. Regardez au verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de Sodome, les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Et ils appellèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux, littéralement. Que nous les pénétrions, que nous les connaissions dans le sens sexuel. » Alors c'est intéressant parce que nous l'avons lu dans Luc 17, j'ai remarqué. Du temps de Noé, on bâtissait, on vendait, on achetait, on mangeait, on buvait, on se mariait, on mariait les enfants. Et vous avez remarqué que du temps de Lot, on mange, on boit, on fait des échanges commerciaux, mais on ne se marie plus. Vous avez remarqué que Jésus a fait la distinction entre la génération de Noé et la génération de Lot. On ne se marie plus. Parce que désormais, toute la sexualité est complètement déviée. C'est-à-dire que notre génération est pire que la génération du temps de Noé. Notre génération est la génération du temps de Lot. Et c'est pourquoi nous devons être prêts, mes bien-aimés, au retour de Christ, à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ, qui peut avoir lieu n'importe quand. Et là, hélas, dans notre histoire, il se trouve que Lot, le juste, n'était pas prêt. Il leur dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont pas connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. » Ah, mes amis, quand on a un cœur partagé, eh bien, on fait comme le monde, hein. Même en tant qu'enfant de Dieu. Vous vous rendez compte que Lot, le juste, celui qui était déclaré juste, ce neveu d'Abraham, il était capable d'offrir ses filles, ses cadeaux de Dieu, à la sodomie, au péché le plus abominable qui soit. Lui, Lot. Et voyez-vous, ça c'est notre problème lorsque nous nous tenons à la lisière de la vie avec Christ. Nous ne voyons pas les choses comme elles doivent être vues. Et cela continue, n'est-ce pas ? Quand il témoigne ensuite, n'est-ce pas, verset 9, il dit « Retire-toi ». Il dit encore « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te verrons pis qu'à eux. » Et il y a eu donc intervention miraculeuse. Verset 12, les hommes dirent à Lot « Qui as-tu encore ici ?» Gendre, fils et filles, tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Lot sortit par là, ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Comment peut-on avoir de l'autorité dans son témoignage? Dans la mesure où l'on se confond pratiquement avec ce type de situation. Dans la mesure où on a précisément même donné ses propres enfants au monde. Et alors finalement, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner, l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Et après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et que répond Lot? Il dit « Oh non, Seigneur, Seigneur, je me contenterai d'un tout petit salut. » Tout petit, tout petit, tout petit. L'essentiel, c'est que je puisse me réfugier à Tsoar, la petite. Simplement, c'est tout ce que je te demande. Au moins que je sois sauvé. Un tout petit, petit, petit salut. C'est tout, pas plus. Et Dieu va lui accorder un tout petit, petit, petit salut. Tsoar, littéralement, la minuscule. Et il sera sauvé comme au travers du Ça, c'est ce que dit le Nouveau Testament. Mes amis, si nous vivons à la mode de Lot, avec un cœur partagé, nous serons sauvés, mais comme au travers du feu. Cela veut dire que lorsque nous nous présenterons devant le tribunal de Christ, là-haut, nous n'aurons pas de couronne à jeter à ses pieds. Nous nous présenterons devant lui, mais le bois, le chaume, le foin, tout cela aura disparu et il y aura si peu de pierres précieuses. Quelle différence entre Lot et Abraham? Et vous savez que l'histoire se termine de manière odieuse, puisqu'après cette destruction terrible, cataclysmique, Lot, qui avait pourtant si bien commencé, se retrouve dans une caverne, où il s'enivre, où il est enivré par ses filles. Ça, ce sont les pratiques de Sodome. Voilà ce qu'on apprend quand on baigne continuellement dans le climat de Sodome. Et le résultat, c'est un double inceste. Et la naissance de deux tribus païennes, mais précisément issues de ce double inceste, les Ammonites et les Moabites, avec lesquels Israël aura par la suite d'énormes problèmes, à cause du fait que Lot avait un cœur partagé. Vous avez vu le résultat d'un choix? Il était gagnant, n'est-ce pas? Nous croyons être gagnants. Ils sont bêtes, ces chrétiens. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire pas si bêtes que ça. Savez-vous pourquoi? Parce que la foi, et c'est la sixième caractéristique, mais je ne la développerai pas pour que vous ne soyez pas sursaturés. La sixième caractéristique de la foi, c'est qu'elle voit plus loin que le bout de son nez. Elle vit dans la perspective céleste. Abraham a vu plus loin que le bout de son nez. Vous avez vu la conclusion de Genèse 13? C'est versets 14 à 18 que nous pourrions décortiquer, mais nous ne le faisons pas. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Lève les yeux. et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tu l'as perdu en apparence, hein? En apparence, c'est Lot qui a gagné. Eh bien, mon ami Abraham, je vais te dire un petit secret. En réalité, tu n'es qu'un perdant d'apparence. Tu es le véritable gagnant. À long terme, c'est toi qui as gagné, parce que ce pays, je le donnerai à toi, à ta postérité. Pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, et ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Et ce chapitre se termine avec des tentes qui continuent à être transportées de lieu en lieu et un autel qui continue à être bâti. Là où dans la vie de Lot, vous ne voyez plus de tentes, plus d'autel, plus de promesses désormais, mais un tas de problèmes. Chapitre 14, chapitre 18, chapitre 19. Abraham continue son chemin, apparemment dépouillé, mais par son obéissance, c'est lui le vrai vainqueur. Mes bien-aimés, quel est notre choix? Si Jésus-Christ revient nous prendre aujourd'hui, que ce soit par la mort, que ce soit en enlevant son Église, qui serons-nous? Abraham, celui que les païens appelaient le prince de Dieu au milieu d'eux, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Il lui disait, nous savons que Dieu est avec toi. Vous vous rendez compte? Est-ce que nous serons Abraham? Ou est-ce que nous serons Lot, le juste, dont il est dit dans 2 Pierre, n'est-ce pas, au chapitre 2, je crois, versets 13 et 14, que ce juste, tourmenté son cœur nuit et jour, continuellement, à cause de tout ce qu'il voyait, de toutes leurs horreurs. Il ne connaissait pas la paix, parce que c'était un homme partagé, torturé. Son cœur était partiellement sur la colline, là-haut, dans la présence de Dieu, mais partiellement dans la cité de Sodome où il s'enracinait. Ne soyons pas assis entre deux chaises. Si vous deviez faire un choix, si le Saint-Esprit vous y conviait cet après-midi, mes bien-aimés, faites-le. N'attendez pas demain, faites-le cet après-midi. Choisissez résolument de vous tenir totalement dans le camp de Jésus-Christ, de son côté, à fond, même si ça coûte, même s'il faut renoncer à des droits. Nous sommes les véritables gagnants, parce que notre cœur est rempli d'espérance. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. À commencer par l'amour de lui, prolongé par l'amour de ceux qui nous entourent, en commençant par l'amour pour nos frères. Nous voulons prier. Ô Père, combien ta parole est à la fois prenante et poignante. Seigneur, nous avons vécu avec toi cet après-midi à la fois le drame d'un croyant au cœur partagé et en même temps la croissance encourageante d'une foi purifiée de scories, séparée de l'infidélité et de l'incrédulité. Seigneur, tu as voulu nous montrer les deux aspects pour que nous en saisissions la puissance du contraste et le danger d'un mauvais choix. Seigneur, je te supplie. Je suis persuadé devant toi qu'il y a parmi nous des croyants au cœur partagé, ou certains qui jusqu'à présent ont calculé et ne t'ont pas vraiment donné leur vie. Seigneur, dans la fin de cette réunion,
C'est sur toi que nous comptons, sur le travail de ton esprit, sur l'action de ta parole vivante, pour accomplir ce miracle que l'homme ne peut accomplir, mais que tu peux et veux accomplir. Seigneur, donne la grâce pour que cet après-midi, il y ait des prises de position. Pour toi, un changement de territoire. Et que certains de Lot qu'ils étaient jusqu'ici deviennent vraiment des Abraham, en se consacrant à toi, ou quittent Ur en Chaldée pour entrer dans le territoire de la promesse, pour devenir tes enfants à cause de la croix. Seigneur, fais-le alors que nous te prions. J'aimerais que nous gardions les yeux fermés. Simplement, dans la prière, vous ne vous occupez pas, surtout notamment les enfants qui me regardent maintenant. Alors vous gardez gentiment vos yeux fermés. Nous sommes dans la prière. Et je n'aimerais pas terminer cette série de 8 réflexions sur un thème tellement fondamental, vital, indispensable à la vie de l'homme, sans vous offrir, comme elle m'a été offerte, cette possibilité de vous déterminer clairement, je dirais de manière visible, en face d'un ennemi spirituel qui ne sait pas tout, qui ne voit pas tout, qui a besoin que nous prenions clairement, officiellement, ostensiblement, position aussi en face de lui. Et si cet après-midi Dieu s'est servi de sa parole, de son esprit, pour vous supplier de quitter Ur en Chaldée pour entrer dans la terre promise, pour vraiment vous donner à Jésus-Christ, pour être du bon côté, être déclaré juste, purifié, innocenté, en plaidant coupable, alors je voudrais vous inviter, de la part de Dieu, à le faire cet après-midi. Et puis si vous êtes à Jésus-Christ, mais que jusqu'à présent, vous avez vécu dans le marais, dans le milieu, dans la médiocrité, à la mode de Lot, simplement dans le sillage d'un aîné, d'un parent, ou de l'Église, mais sans avoir de colonne vertébrale propre, avec le risque de finir à Sodome et Gomorre. Alors je vous invite aussi à prendre position. Et je voudrais que vous preniez position cet après-midi de manière tangible. Non pas pour une gloire humaine quelconque, mais pour votre propre bénéfice. Et afin que la puissance des ténèbres sache clairement que vous n'êtes pas de son côté, mais du côté du Seigneur. Alors je vous encourage à vous lever à votre place. Si Dieu vous a demandé, dans le cadre de cette série, de changer de camp ou de vous reconsacrer à lui, vous ne vous préoccupez ni d'Ève ni d'Adam, ni de votre voisin de droite, ni de celui de gauche, ni de votre fierté légitime, ni de l'orgueil qui est parfois dans nos vies et qui est là pour nous dire surtout que les autres ne sachent pas. Vous êtes préoccupé du bonheur de Dieu, de la volonté de Dieu, de l'honneur de Dieu. Et à cause de cela, parce que c'est vital, qui que vous soyez, quelle que soit votre responsabilité dans l'Église, quelle que soit votre position par rapport à l'Église, vous vous levez parce que c'est le plan de Dieu à votre place. Et vous signifiez que vous voulez vraiment marcher de tout votre cœur par sa grâce avec lui. Nous allons nous tenir dans le silence. Peu de temps, je n'insisterai pas. Et pendant que nous prions les uns pour les autres, si Dieu vous dit dans votre cœur, lève-toi, levez-vous, il sait que vous en avez besoin. Alors nous prions les uns pour les autres, et les uns et les autres peuvent se lever maintenant. Seigneur, merci pour ton travail silencieux dans les cœurs. Merci de donner la grâce d'une obéissance joyeuse, volontaire, celle de te faire plaisir, de réjouir ton cœur de père, en nous tenant vraiment de ton côté. Visite-nous les uns et les autres, prolonge tout ce que nous avons partagé durant ce week-end. que cela se traduise en fruits évidents, visibles, dignes de nos repentances personnelles. Que l'on puisse reconnaître l'arbre à ses fruits durant les semaines à venir. Seigneur, accompagne-nous. Et si nous avons besoin d'aller demander pardon, si nous avons besoin de pardonner, si nous avons besoin, Seigneur, de faire le premier pas dans une situation conflictuelle, Seigneur, accorde-nous la grâce, et tu le fais, de ne pas tarder à faire les pas que tu réclames de nous. Merci, merci de nous apprendre à marcher toujours plus sur les traces de la foi d'Abraham. Merci pour l'exemple qu'il nous donne et merci parce qu'il tourne aussi nos regards vers ton Fils, Jésus-Christ. Loué sois-tu pour cela. Merci pour la joie de t'appartenir. Merci pour l'espérance qui brûle dans nos cœurs. Merci pour la foi qui se développe et merci pour l'amour qui croît. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.